les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un gigantesque chien noir, le mufle plein de sang, qui rôde en plein brouillard sur la lande de Dartmoor. Cela vous rappelle quelque chose. Une famille marquée par les morts violentes. Oui, quelle incroyable énigme. Alors, qui prévenir? On pourrait composer le 24-28 à Londres. Et, au téléphone, un certain Sherlock Holmes répondrait, à moins que ce ne soit le docteur Watson ou encore Miss Hudson. Bref, l'affaire du chien des Baskerville, une fois de plus, doit être résolue, ainsi qu'elle le fut, le 26 mai 1959, sur la chaîne parisienne.
À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir, en hommage à Sir Arthur Conan Doyle, Le chien des Baskerville, une adaptation radiophonique de Thomas Narcejac, d'après l'œuvre de Conan Doyle, et Le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures avec Germaine Beaumont et Roger Régent.
Il y a 25 ans, très exactement le 7 juillet 1930, s'éteignait à son domicile dans le Sussex le célèbre écrivain anglais Sir Arthur Conan Doyle, dont l'un des titres de gloire, et non le moindre, est d'avoir créé Sherlock Holmes, qui devait devenir dans tous les pays le type même du détective amateur. C'est pour commémorer cet événement que Pierre Véry et moi allons aujourd'hui, et exceptionnellement, faire une entorse à la règle du jeu de notre émission, en ne vous présentant pas une pièce radiophonique inspirée par un fait divers, mais l'adaptation d'un des plus célèbres romans de Conan Doyle, où bien entendu intervient Sherlock Holmes, Le chien des Baskerville. Le fils de Sir Arthur Conan Doyle, Adrian Conan Doyle, que nous remercions de nous avoir autorisé à vous présenter aujourd'hui cette adaptation faite par Thomas Narcejac d'une des œuvres de son père, était récemment à Paris, et nous avions formé le projet de vous le faire entendre au cours de cette émission. Malheureusement, obligé de quitter notre pays plus tôt qu'il ne le prévoyait, Adrian Conan Doyle nous a adressé un message destiné aux auditeurs de l'émission Faits divers et dont Pierre Véry va vous donner lecture.
Voici ce message. C'est avec plaisir que je profite de l'occasion que vous m'offrez de dire quelques mots sur les liens que mon père avait avec la France et la nation française. Je ne crois pas que l'on sache en France que mon père était en partie de descendance française par sa grand-mère Marianna Conan, dernière survivante de la vieille branche bretonne de ce nom. Durant toute sa vie, l'amour que mon père a éprouvé pour la France s'est exprimé par toutes les formes de son activité. Et le plus populaire des héros qu'il a créé n'est autre que le fameux brigadier Étienne Gérard, des hussards de Conflans au temps de l'épopée napoléonienne. Le grand amour de mon père pour la France, qu'il considérait comme le berceau de la culture mondiale, ne s'est pas seulement exprimé dans ses travaux littéraires, mais encore en beaucoup d'autres occasions. Il était d'ailleurs lui-même très sensible à l'amitié que lui manifestaient les Français. Pendant la guerre de 1914-1918, alors que les journaux alliés donnaient une image peu exacte des efforts de la France, le gouvernement français demanda au gouvernement britannique d'envoyer mon père sur le front français comme correspondant de guerre, afin que, par la plume d'un homme respecté par les deux nations, l'Angleterre fût informée enfin de façon très exacte de l'héroïque défense de la France contre l'envahisseur. Je ne veux pas terminer sans une fois encore rappeler la partie de l'œuvre de mon père qui se réfère à la France. En Angleterre, c'est grâce aux textes de romans tels que La Compagnie Blanche, Sœur Nigel, Les Réfugiés et Les Aventures du Brigadier Gérard que beaucoup d'écoliers ont commencé à comprendre la véritable grandeur de la France. Un certain nombre d'hommages ont déjà été rendus à la mémoire de mon père dans plusieurs pays à l'occasion du 25e anniversaire de son décès. Je tiens essentiellement à déclarer aujourd'hui qu'il n'y en a aucun auquel il aurait été plus sensible, qui lui aurait causé une plus grande joie et dont il eût éprouvé plus de fierté que celui que vous lui rendez aujourd'hui en montrant que sa mémoire est encore présente dans ce pays qu'il a si profondément aimé.
Henri Guizel et Jean Topard dans Le chien des Baskerville, une adaptation radiophonique de Thomas Narcejac d'après l'œuvre de Conan Doyle.
Bonsoir, docteur Mortimer.
Bonsoir, Barrymore. C'est Sir Henry qui est malade?
Oui, docteur. Pour dire vrai, nous sommes assez inquiets. Sir Henry avait l'air bien portant. Avant le dîner, il a fait sa promenade habituelle. Seulement, il est rentré un peu plus tôt.
Ah.
J'ai remarqué qu'il était pâle, agité. Il n'a presque pas mangé. Il est allé se coucher tout de suite. Et c'est alors que je vous ai envoyé William avec la voiture.
Tiens, tiens. Il n'a pas de vertige? Il ne s'est pas plaint d'étouffement?
Non.
Eh bien, nous allons voir cela.
Oui.
Bonsoir, Sir Henry. Il fait bien trop chaud ici. Il faut ouvrir une fenêtre.
Non, Mortimer, non, je vous en prie. Oui.
Bonsoir, Sir Henry. Il fait bien trop chaud ici. Il faut ouvrir une fenêtre.
Non, Mortimer, non, je vous en prie. Surtout ne touchez pas aux fenêtres. Et même... Voyez donc si personne m'écoute à la porte.
Barrymore est parti. Nous sommes bien seuls. Que se passe-t-il, Sir Henry? Ma parole, si je ne vous connaissais pas depuis tant d'années, je dirais que vous êtes malade de peur.
Je suis malade de peur, Mortimer. Je suis perdu.
Vous y allez. Vous avez le cœur fatigué, c'est vrai. Mais de là...
Non, il ne s'agit pas de cela, Mortimer. Non, le... laissez votre trousse tranquille. Prenez plutôt le fauteuil. Et écoutez-moi. J'ai besoin de vous parler d'homme à homme. Que savez-vous du chien des Baskerville?
Ce molosse qui erre dans la lande la nuit venue. Je crois que c'est une légende, une superstition. Tout le monde parle de ce chien et personne ne l'a jamais vu.
Ne plaisantez pas, Mortimer.
Voyons, Sir Henry. Depuis 3 ans, je traverse et retraverse de jour et de nuit cette lande de Dartmoor. Si ce chien existait, je l'aurais au moins entendu.
Chut, écoutez. J'avais bien cru. Oh, ma pauvre tête. Mortimer, je vais vous raconter une histoire. Une histoire que je vous garantis vraie. Ce manoir de Baskerville a été construit il y a des siècles, au temps de la Grande Rébellion, par mon ancêtre Hugo. Vous savez cela?
Comme tout le monde.
Vous savez aussi que Hugo Baskerville était un homme impie et athée. Son nom est resté célèbre dans le pays, hélas. Et voici ce qu'on ignore. Hugo tomba un jour amoureux de la fille d'un fermier. L'enleva. Et comme elle lui résistait, l'enferma ici même, dans une chambre du haut. La pauvre fille, épouvantée par les cris de tous ces hommes qui faisaient ripaille, réussit à s'enfuir en s'accrochant aux lierres de la tour. Quand Hugo découvrit que sa captive s'était évadée, il entra dans une fureur affreuse, fit sceller sa jument et lâcha ses chiens sur la trace de la fugitive. Ses compagnons, à moitié ivres, cherchèrent à le rejoindre. Au petit matin, ils trouvèrent le corps de la jeune fille. Elle était morte de peur et de fatigue. Hugo Baskerville gisait un peu plus loin. Sur son cadavre était couché un gigantesque chien noir, au mufle plein de sang. Une créature diabolique qui disparut dans la brume. Et depuis cette époque, les Baskerville meurent presque toujours tragiquement.
Bon, ne vous agitez pas, Sir Henry.
Vous ne me croyez pas, bien entendu. Et pourtant, ce soir, Mortimer, au fond du parc, dans l'allée des ifs, j'ai entendu le chien des Baskerville.
Quelque bête égarée.
Allons donc, comme si vous ignoriez que dans un rayon de 5 miles, il n'y a pas une ferme, pas une maison à part celle des Stapleton. Et les Stapleton n'ont pas de chien. J'ai affronté bien des périls, Mortimer, quand j'étais aux Indes. Je ne suis pas un lâche. Eh bien, quand j'ai entendu ce chien hurler à la mort, je suis revenu aussi vite que j'ai pu. Je courais. Oui, je courais. Et tenez. Oh, mon pauvre ami. Il me semble que je l'entends encore. C'est terrible. Je suis un homme perdu.
Vous avez tort, Sir Henry, de vous affoler de cette façon à cause d'une légende.
Mon père, renversé par son cheval un soir qu'il revenait de Dartmoor. Est-ce une légende? Et mon grand-père, noyé dans le grand bourbier de Grimpay. Est-ce encore une légende?
Je vous accorde, Sir Henry, que la fatalité s'acharne sur votre famille. Mais il suffit de raisonner.
Mais j'ai raisonné, Mortimer. Et c'est pourquoi je vous ai fait venir. Mon frère Roger est mort en Amérique du Sud. J'ai jamais su dans quelles circonstances. C'était un garçon taré qui rompit très vite toute relation avec nous. Je crois qu'il ne s'est jamais marié. Après moi, il ne reste donc qu'un Baskerville. Mon neveu Henry. Il est au Canada depuis qu'il a perdu son père. Vous allez me faire une promesse, Mortimer. S'il m'arrivait quelque chose...
Mais je vous assure
que... Je sais ce que je dis. S'il m'arrive quelque chose... Promettez-moi d'avertir mon neveu. La fortune que je lui laisserai est considérable. Qu'il voyage. Qu'il s'établisse ailleurs. Mais surtout qu'il ne revienne jamais habiter ici, vous entendez, Mortimer? Jamais! À cause du chien.
Je suis peiné, Sir Henry, de vous voir dans cet état.
J'ai votre parole, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Mais vous n'avez rien à craindre, je vous le répète. Je vais vous donner un calmant et je reviendrai après-demain. D'ici là.
Oui, d'ici là. Bonsoir, Mortimer. Et excusez-moi. Faites attention en traversant la lande. Barrymore, reconduisez le docteur Mortimer.
Ne vous inquiétez pas, Sir Henry. Nous vous tirerons de là.
Docteur, si je puis me permettre.
Mais j'avoue qu'il m'inquiète un peu. Bigre, quelle nuit noire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez entendu, Barrymore?
Non.
C'est la première fois. Un chien perdu, sans doute.
Je n'aime pas beaucoup cela. Bonsoir, Barrymore. Bien entendu, à la première alerte, vous m'envoyez William. Vous n'avez pas vu de chien rôder autour du manoir?
Non, docteur. Pourquoi?
Rien. Une idée idiote. À bientôt, Barrymore.
Jeune Henry Baskerville est arrivé depuis un bon moment. J'ai hâte de les voir, Mortimer et lui. Quelle histoire.
Docteur Watson, voulez-vous me relire la fin de la lettre de Mortimer, je vous prie?
Voici. Sir Henry gisait la face contre terre, les bras étendus, les doigts enfoncés dans le sol, les traits convulsés par une émotion puissante. Il n'y avait sur le corps aucune blessure. Mais Barrymore a fait à l'enquête une déclaration erronée. Il a assuré qu'il n'y avait aucune trace sur le sol autour du cadavre. Or, j'ai vu, moi, des traces très nettes, les empreintes d'un chien gigantesque.
D'un chien gigantesque. Mm-hmm. Que disent les journaux, Watson?
Rien de plus. D'après les domestiques, la santé de Sir Henry s'était altérée. Il faisait de violentes crises de dépression nerveuse.
Que pensez-vous de Barrymore?
C'était l'homme de confiance de Sir Henry. C'est lui qui a trouvé le corps au fond du parc, non loin d'une barrière ouvrant sur la lande. Il a expliqué qu'il avait suivi les traces de pas laissées par son maître. Elles aboutissaient à la barrière, puis s'éloignaient vers le fond du parc en changeant de forme, comme si Sir Henry avait marché sur la pointe des pieds.
Absurde. Ah, voici nos visiteurs.
Docteur Mortimer.
Moi-même.
Enchanté, mon cher confrère. Docteur Watson.
Enchanté.
Et voici Sherlock Holmes.
Monsieur.
Mais je ne vois pas Sir Henry Baskerville. Aurait-il manqué son train ou son bateau?
Non, rassurez-vous. Il a débarqué hier soir en parfaite santé. Et je l'ai reçu tout à l'heure à Charing Cross. Je l'ai laissé à l'hôtel. Il va nous rejoindre dans un instant.
Vous serez mieux dans ce fauteuil.
Merci.
Votre lettre nous a bien intrigués, mon cher Mortimer.
Il y a un détail qui me surprend. Vous êtes sûr, docteur, qu'il n'y avait aucune empreinte autour du corps?
Absolument sûr. Elles s'arrêtaient à une vingtaine de pas du cadavre. C'est pourquoi la police ne les a pas remarquées. D'après leurs dimensions, il n'y a aucun doute. Le chien qui a laissé de telles traces est beaucoup plus grand qu'un chien de berger, par exemple.
Oui. Quelle sorte de nuit était-ce?
Humide et froide.
Ce chien, ce fameux chien des Baskerville, personne ne l'a jamais vu, évidemment.
Et détrompez-vous. J'ai fait ma petite enquête et j'ai découvert que plusieurs personnes avaient vu sur la lande un être étrange. Une sorte d'animal énorme, lumineux, fantomatique. J'ai interrogé longuement ces hommes. L'un est un paysan, l'autre un maréchal ferrant et le troisième un fermier. Et je suis convaincu qu'ils disent la vérité. D'ailleurs, ils n'osent plus sortir le soir. Et moi-même, quand je dois aller faire une visite...
Vous m'étonnez, Mortimer. Alors, d'après vous, cette bête est surnaturelle?
Je ne sais que croire.
Qu'attendez-vous de moi?
Et je vous demande de protéger Sir Henry. Comme je le craignais quand je vous ai écrit, il a l'intention de se fixer au manoir. Or, j'ai promis à son oncle...
Je comprends,
mais...
Vous alliez dire quelque chose, Watson?
Oui. Il y a un détail qui me chiffonne. Pourquoi diable Sir Henry Baskerville aurait-il marché sur la pointe des pieds? Avez-vous une idée là-dessus, mon cher Mortimer?
Il ne marchait pas sur la pointe des pieds, Watson. Il courait.
Hein?
Il courait désespérément, parce que sa vie en dépendait. Et il a couru jusqu'à ce que son cœur éclate. Raisonnez un peu, Watson.
Oui, en effet, c'est assez plausible. Votre conclusion, Holmes?
Ma conclusion? Passez-moi une allumette, Watson. Merci. Ma conclusion?
Oui.
Il y a bien des façons d'assassiner quelqu'un.
Ah, voici Sir Henry.
Ma foi, monsieur Holmes, je suis bien aise de vous rencontrer.
En effet, car la lettre anonyme que vous avez reçue tout à l'heure au Northumberland Hotel vous a bouleversé. Et en outre, on vous a volé une paire de chaussures.
Ah, ça, mais Vous m'avez donc fait espionner?
Pas le moins du monde. Seulement, le Northumberland Hotel est juste en face de Charing Cross. Et d'autre part, dans votre agitation, vous avez oublié de remettre votre lorgnon dans votre poche. Mais oui, tenez, regardez. Il pend au bout de son cordon. Et ça n'est pas la lecture d'un journal qui a provoqué votre indignation, n'est-ce pas?
C'est vrai, j'ai reçu une lettre anonyme.
Et vous êtes descendu à la réception pour vous renseigner?
Oui, mais je n'ai pas été absent plus de 3 minutes.
Sans doute. Mais il n'en fallait pas davantage pour vous voler une paire de chaussures. Des chaussures noires, je présume. Et à tige de drap.
Vous êtes un homme extraordinaire.
Bon, non. Je regarde, c'est tout. Tenez, je constate que Sir Henry porte un costume d'après-midi de couleur foncée et que ses souliers sont jaunes. Sir Henry est un homme élégant, qui aurait certainement mis des bottines noires à la dernière mode. Le malheur, c'est qu'on venait de les lui voler.
Oh, mais tout cela est exact. Et je voudrais bien savoir ce que signifie ce vol.
Procédons par ordre. Montrez-moi ce billet.
Voici. Voyez, l'adresse est en gros caractères.
Oui, je vois.
Et notez que les mots du texte ont été découpés dans un journal et collés sur la feuille. Si vous tenez à votre vie ou à votre raison, n'allez pas sur la lande. Seul le mot « lande » a été écrit à l'encre.
Faites voir, je vous prie. Oui, ce sont les caractères du Times. Watson, le Times, d'hier est à côté de vous. Passez-le-moi, je vous prie. Merci.
Il y a quelqu'un qui semble prendre un grand intérêt à vos déplacements, Sir Henry.
Écoutez cet extrait de l'éditorial. N'allez pas vous laisser flatter au point d'imaginer que votre métier et votre industrie profiteront de ces tarifs douaniers. Si vous tenez à une législation de ce genre, réfléchissez, elle appauvrira le pays, abaissera les conditions de vie dans notre île, si vous n'avez pas assez de raisons pour lutter contre elle, etc., etc., etc.
Je ne vois pas le rapport.
Tous les mots y sont, voyons. Vous, votre, vie, raison, n'allez pas. Si vous tenez, le mot « lande » a été ajouté à l'encre parce qu'il ne figurait pas dans le journal. Oh,
magnifique.
Bon, si.
Et
on a utilisé des ciseaux à ongles. Regardez, vous pouvez voir que les lames en étaient très courtes puisque celui qui a découpé les mots a dû s'y reprendre à 2 fois pour détacher le groupe « n'allez pas », vous voyez, là, et le groupe « si vous tenez ».
Oh, vous êtes étonnant. Bon,
l'auteur de cette lettre est un homme cultivé. Et ses efforts pour cacher sa propre écriture prouvent que vous pourriez la reconnaître un jour. Il était, de plus, très pressé. Oui, puisque les mots n'ont pas été collés suivant une ligne bien droite. Et il a écrit l'adresse dans un hôtel. Tenez, car la plume a craché 2 fois, vous voyez. Et s'est trouvée 3 fois à sec pour une si courte adresse. Oh, vous connaissez les plumes et les encriers des hôtels.
Mais ce vol de chaussures, monsieur Holmes.
Justement.
Hein, quoi? Vous sauriez déjà quelque chose?
Non. Faites pas attention. Watson, une allumette, cette sacrée pipe ne tire pas. Merci. Sir Henry, à votre place, je n'irai pas au manoir. Il y a du danger.
Il n'y a point de diable en enfer, monsieur Holmes, et il n'y a point d'homme sur terre qui puisse m'empêcher de me rendre à la demeure des miens.
Voilà qui est parlé, Sir Henry. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, et vous pouvez compter sur moi. Et vous allez retourner à l'hôtel où Watson et moi vous reprendrons dans 1/2 heure, et là-bas, nous dresserons nos plans de campagne. Watson, vite à la fenêtre. Chut, ne vous montrez pas, surtout. Tenez, jetez un coup d'œil dans la rue. Qu'est-ce que vous voyez?
Rien.
Mais si... Le cab. Vous voyez bien le cab? Tenez, il se met en marche. Il suit Mortimer et Baskerville. Regardez le cocher. Il a une épaisse barbe noire.
Il faut courir, Holmes, le rattraper.
Tenez-vous tranquille, Watson. Il est évident que quelqu'un a surveillé Mortimer, l'a suivi jusqu'à Charing Cross, puis s'est faufilé derrière Baskerville au Northumberland Hotel. Et là-bas, il a écrit la lettre, et profitant de l'absence du jeune Baskerville, il a volé les chaussures.
Et pourquoi, Holmes?
Pourquoi? J'entrevois une machination horrible, Watson. Hein? Le cab a disparu. Nous pouvons sortir. Savez-vous ce que vous allez faire, mon cher ami?
Non.
Non. Eh bien, dans quelques jours, vous rejoindrez Sir Henry au manoir. Vous veillerez sur lui. Soyez toujours armés et empêchez le jeune Baskerville de sortir le soir. Je vous jure que nous avons un adversaire de taille.
Vous m'inquiétez, Holmes. Je me demande si à moi seul...
Je ne puis m'absenter en ce moment, mais dès que je serai libre, j'irai vous prêter main forte. Et à nous deux, j'espère que nous éviterons le pire.
Excellent. Mais Dieu, que ce pays est sauvage. Ces landes désertes, ces brouillards perpétuels, ces oiseaux noirs qui volent au-dessus des friches. Et pour compléter le tableau, ces gardes au carrefour.
Vous n'avez pas rencontré le bagnard?
Non. Nous avons seulement été arrêtés par un garde à cheval. C'est par lui que j'ai appris l'évasion de ce Selden. C'est un individu dangereux.
Oui, on le dit. Il y a plusieurs jours qu'il se cache quelque part dans la lande. On surveille les routes et les gares, mais... Tant qu'on ne fouillera pas méthodiquement le pays, le gaillard ne risquera pas grand-chose.
Il aura du mal à se ravitailler. Cette lande est un vrai désert.
Venez, docteur, je vais vous montrer votre chambre. Ici, vous voyez la salle à manger des Baskerville. Pas très gaie, n'est-ce pas? Et surtout avec tous ces portraits qui vous regardent, ces ancêtres que je ne connais pas bien encore. Attention, il y a deux marches. Et ce couloir là-haut dessert toutes les chambres. La vôtre est juste à côté de la mienne. Montez. Voilà. Ah, si vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez qu'à sonner Barrymore.
À propos de Barrymore, excusez-moi, Sir Henry. Est-ce qu'il vous inspire confiance?
Quoi, vous le soupçonnez de quelque chose?
Quand vous êtes venu nous voir à Baker Street, un cab nous suivait. Il était conduit par un homme qui portait une épaisse barbe noire. Mm-hmm. Une barbe comme celle de Barrymore. Mm.
Sa famille était au service de la nôtre pendant de nombreuses générations, je ne puis croire que...
Et justement, était-il au manoir le jour de votre arrivée à Londres?
Mon foi, je l'ignore. Mais vous me faites penser à quelque chose qui m'a intrigué l'autre soir.
Parlez, je vous prie.
Il y avait du vent, je ne parvenais pas à m'endormir. Oh, c'est ridicule.
Mais non, pas du tout. Le plus petit indice peut me permettre d'être sur une piste.
Eh bien, voilà. J'ai entendu quelqu'un pleurer. Mm-hmm. Oui, je suis sûr de ne pas me tromper. Quelqu'un pleurait. Une femme. Oui, oui, plus j'y pense, plus je suis prêt à affirmer que c'était une femme.
Dans la maison?
Oui, quelque part dans les salles du bas. Attendez, il y a mieux. La nuit dernière, vers 2h du matin, j'ai été réveillé par un pas furtif qui passait devant ma chambre. Je me suis levé... Il y avait dans le corridor un homme qui marchait sur la pointe des pieds. Je le suivis. Il entra dans un débarras au second, alluma une bougie et il la tint immobile tout contre la vitre.
Qui était-ce?
Barrymore. Il regardait du côté de la lande. Au bout de quelques minutes, il poussa une sorte de gémissement et éteignit la lumière.
Ensuite?
Eh bien, ensuite, il regagna sa chambre.
Et vous n'avez pas songé à l'interroger?
Non, ce rôle d'espion me répugnait. Mais si vous n'êtes pas trop fatigué, ce soir, nous pourrions monter la garde.
J'allais vous le demander.
Oui, entrez.
Le thé est servi, monsieur.
Bon, nous descendons tout de suite. Vous accepterez bien quelques tranches de cake, docteur, en attendant le dîner.
Volontiers. À votre avis, Sir Henry, qu'est-ce que Barrymore faisait là-haut?
La mort de mon oncle l'a profondément bouleversé, je crois. Peut-être avait-il surpris quelques bruits suspects.
Mmh. Vous pensez au chien, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu hurler?
Non. S'il n'y avait pas le témoignage de Mortimer, je serais même assez sceptique.
Encore une question. Barrymore a-t-il été avantagé d'une façon quelconque dans le testament de votre oncle?
Lui et sa femme ont reçu chacun 550 livres.
Ah. Savait-il qu'il recevrait cette somme?
Oui, tout le monde ici connaissait les dispositions testamentaires de mon oncle.
Tout le monde? Le personnel est donc nombreux?
Non, il se compose seulement de Barrymore, de sa femme et d'une fille de cuisine. Quand je dis tout le monde, je songe aussi à Mortimer et au Stapleton. Ah, merci, Barrymore. Compliment pour le cake.
Monsieur a-t-il encore besoin de moi?
Non, vous pouvez disposer, Barrymore. J'ouvrirai moi-même au Stapleton. J'ai pensé vous être agréable, docteur, en invitant les Stapleton. Vous connaîtrez ainsi nos voisins. Stapleton est un bonhomme assez maniaque, vous verrez. Il a dirigé une école dans le temps. Et puis, à la suite d'une épidémie, il perdit plusieurs de ses pensionnaires. L'établissement qu'il dirigeait périclitait. Il fut contraint de se retirer à la campagne. Quant à sa sœur, un peu de lait, docteur?
Là, là, merci. Vous parliez de la sœur de Stapleton.
Oui, Beryl, je veux dire, sa sœur. Elle est très gentille.
Elle doit s'ennuyer dans un pays aussi sauvage en compagnie d'un homme comme son frère.
Si vous voyez leur maison, elle est située en bordure d'un immense marécage qu'on appelle le bourbier de Grimpen. D'ailleurs, tenez, si vous voulez venir jusqu'à la fenêtre. Là-bas, là, à droite, derrière les arbres.
Je vois.
Et le bourbier commence là. Il a englouti bien des bêtes et bien des hommes, paraît-il. Je crois même qu'un Baskerville s'y est enlisé. Stapleton lui-même, et pourtant il en connaît tous les passages, ne s'y aventure qu'avec précaution. Il prétend que ce marais contient des trésors.
Tiens.
Pour un botaniste.
Et ce toit gris, là-bas?
C'est leur maison, justement.
Et à gauche, au pied de la colline?
Ah, là, vous apercevez des grottes préhistoriques. Hein, c'est un pays singulier, docteur, mais dont on subit rapidement le charme.
Et quel âge a-t-elle, mademoiselle Stapleton?
24 ans.
Mm-hmm. Elle est jolie, naturellement.
Oui, elle est très jolie. Encore une tranche de cake, docteur?
Merci, merci. Vous m'en donnez deux. Vous devenez distrait quand on aborde certains sujets, mon cher ami.
Ah, c'est elle. Excusez-moi, je vais aller les accueillir.
J'ai peut-être le temps de donner un coup de téléphone.
Mais certainement, l'appareil est à côté, dans mon bureau.
Merci.
Allô? Donnez-moi le 24-28 à Londres. Merci. Allô, c'est vous, Holmes?
Quoi de neuf?
Barrymore trahit son maître. Il communique avec quelqu'un qui se cache dans la lande.
Je sais.
Ce soir, nous tâcherons de le surprendre.
Ne le bousculez pas trop, ce pauvre Barrymore. Et soyez prudent. Ayez toujours votre revolver sous la main, à cause du chien.
Allons donc.
C'est une créature redoutable. Et ensuite?
Ensuite, Baskerville est amoureux.
De Beryl Stapleton?
Oh. Si vous savez tout, je me demande pourquoi vous m'avez envoyé ici.
Il est amoureux de Beryl, vous êtes sûr? C'est terrible.
J'entends les Stapleton qui arrivent.
Encore un mot, Watson. Quand vous aurez un moment, regardez le portrait de Hugo de Baskerville. Allô, vous m'entendez?
Oui.
Regardez-le bien, le visage de Hugo, et supposez qu'il n'ait pas de barbe. Alors vous comprendrez le mystère du chien.
Allô? Allô? Ah, le diable d'homme. Il faut bien être Holmes pour voir un rapport entre la barbe de Sir Hugo et le chien de Baskerville. Est-ce qu'il existe seulement ce chien? Je voudrais bien le voir.
Ah, voici le docteur Watson. Monsieur et mademoiselle Stapleton.
Oh, si charmé, mademoiselle.
Enchanté.
Très honoré.
Docteur Watson, ah, sans doute aurons-nous l'honneur et le plaisir de rencontrer bientôt Monsieur Sherlock Holmes. Les histoires de votre fameux détective sont parvenues jusqu'ici, docteur Watson. Et nous savons tous que Sherlock Holmes n'est jamais bien loin quand vous arrivez quelque part. Mais je suis peut-être indiscret.
Nullement. Je vous assure simplement que je suis ici en visite chez mon ami Sir Henry. Sherlock Holmes n'a pas du tout l'intention de quitter Londres où le retient l'affaire des colliers.
S'il vous plaît, docteur, de visiter la Londres, je serais heureux de vous servir de guide. Je suppose que vous n'êtes pas impressionné par cette ridicule histoire de chien.
Non, mais vous avouerez qu'elle est troublante. Le docteur Mortimer l'a entendu, ce chien, de ses propres oreilles.
Oh, moi aussi, je l'ai entendu. Et tous ceux qui vivent sur la lande l'ont entendu au moins une fois. Seulement, il ne s'agit pas d'un chien. Attendez, vous allez comprendre.
Venez, Burin. Maintenant que votre frère a trouvé un auditeur complaisant, il ne va plus le lâcher. Je voudrais vous montrer le moteur électrique que je viens de faire installer pour monter l'eau.
Et oui, avec plaisir.
Par ici, docteur, de cette fenêtre, vous verrez mieux.
Et cette allée d'If là-bas, c'est la fameuse allée?
Oui. Elle aboutit à un petit étang où se pose un grand nombre d'oiseaux de passage. Et savez-vous ce que je pense? Eh bien, ce hurlement qui a épouvanté tant de gens, ce n'est pas un chien qui le pousse. mais un oiseau.
Vous voulez rire?
Oh, voyons, docteur, ai-je l'air d'un plaisantin? Je vous affirme que la bête qu'on entend hurler autour du manoir, car on ne l'entend pas ailleurs, notez ce détail, est un butor criard. Oui, c'est à s'y méprendre. Et j'ai vu des butors autour de l'étang. Oh,
vous me surprenez, monsieur Stapleton. Alors, Sir Henry aurait eu peur d'un butor. Et finalement, il serait mort de peur à cause d'un oiseau qui ressemble à un héron, si mes souvenirs sont exacts.
Vous oubliez le bagnard évadé.
Quel rapport?
Sir Henry attendait quelqu'un près de la barrière. Et le bagnard s'est enfui de Dartmoor la nuit où Sir Henry est mort.
Vous êtes sûr?
Il vous sera facile de vérifier. Je me demande si Sir Henry n'a pas profité de la légende du chien pour donner le change.
Mais alors, ce bandit, si je vous suis bien, aurait eu le moyen de contraindre Sir Henry à venir l'attendre dans... Mais c'est invraisemblable.
Il y a un secret dans cette famille, et je jurerais que le jeune Henry le connaît. Tiens, mais où sont-ils passés? Perry! Perry! Ah! Je n'aime pas les manières, ces garçons. Perry!
Mais laissez donc, ils vont revenir.
Mais croyez-vous que je ne le vois pas? Parce qu'il est baron, il se croit tout permis, ma parole. Perry! Je ne tolérerai pas ça plus longtemps.
Du calme, Perry! Monsieur Stapleton. Voulez-vous me permettre de vous parler franchement? Si mon ami avait l'intention d'épouser votre sœur, vous serez le mal.
Quoi? Épouser ma sœur? Tous les Baskerville sont des... Et bien voilà, c'est, docteur. Je ne suis pas d'humeur à supporter. Ne faites pas attention, je vous en prie. Je suis un vieux bonhomme égoïste. Mais si ma sœur s'en allait, si elle m'abandonnait pour un autre... Non, ce serait trop affreux. Moi, vivre tout seul dans cette maison parmi mes herbiers, mes bêtes empaillées... Je deviendrais fou, docteur. Vous ne pouvez pas vous rendre compte.
Et vous savez, ma chère, c'est avec un début.
Ah, mais voici...
Il est arrangé très ingénieusement.
Et maintenant, je vais faire transformer cette salle à manger. Elle est beaucoup trop sombre.
Il faudrait un beau lustre.
Et qu'y a-t-il, Stapleton? Vous semblez souffrant.
Ce n'est rien. Nous allons nous retirer avec votre permission.
Mais vous prendrez bien une tasse de thé.
Non, merci. Vous venez.
Mais Stapleton, voyons, on dirait que vous êtes fâché.
Non.
Mais si vous ne vous sentez pas bien, le docteur Watson. N'est-ce pas, Watson?
Non, mais c'est inutile.
Moi, je suis désolé.
Venez, Perry. Venez.
Oh, diable, si j'y comprends quelque chose. Vous avez vu cela, Watson? Quand il est arrivé, il était d'excellente humeur. Et puis, cinq minutes après. C'est un original et un grincheux, mais quand même.
Et il est jaloux.
Jaloux de quoi?
Je ne voudrais pas être indiscret, mais... Enfin, ouvrez les yeux, mon cher ami. Stapleton sait que vous aimez sa sœur, voilà.
Oui, je l'aime, Watson. C'est arrivé comme dans les livres, le coup de foudre. Je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent de regarder les femmes, et puis brusquement, la fortune, le loisir, la solitude. Et Beryl, pour finir...
Je comprends.
Il n'y a plus à hésiter, je vais écrire à son frère. Il n'a pas la prétention, je suppose, de la garder prisonnière. Qu'est-ce que vous feriez à ma place, Watson?
Je prendrai le temps de la réflexion et je surveillerai Barrymore.
Sa bougie, comme l'autre soir. Il la tient contre la vitre.
Curieux.
Il regarde du côté de la lande.
Vous êtes prêt? Allons-y.
Que faites-vous ici, Barrymore?
Rien, monsieur. C'était la fenêtre, monsieur. Je fais ma ronde le soir pour m'assurer qu'elles sont bien fermées.
Au second étage?
Mais oui, monsieur, toutes les fenêtres.
À 2 heures du matin?
Faites attention, Barrymore. Nous sommes décidés à connaître la vérité. Mieux vaut nous la dire plutôt plus tard. Alors, pas de mensonge, hein? Qu'est-ce que vous faisiez à la fenêtre?
Je ne faisais rien de mal, monsieur. Je tenais une bougie à la fenêtre.
Et pourquoi teniez-vous une bougie à la fenêtre?
Ne me le demandez pas, Sir Henry. Ça ne me le demandez pas. Je vous donne ma parole, monsieur, que ce secret ne m'appartient pas. Si ça ne concernait que moi, je n'essaierai pas de vous le cacher.
Mais parbleu, il faisait un signal. Donnez-moi cette bougie, Barrymore. Nous allons bien voir si quelqu'un répond. Là-bas, ce petit point brillant.
Oh non, monsieur, non, c'est rien du tout.
Promenez la bougie en travers de la fenêtre, Watson.
L'autre bouge aussi, regardez. Canaille, nierez-vous que ce soit un signal? Allons, parlez. Quel est votre complice là-bas?
Je ne me dirai rien.
Alors vous quitterez mon service immédiatement. Et vous vous en irez honteusement, Barrymore. Votre famille a vécu avec la mienne plus de 100 ans sous ce toit et je vous trouve en train de comploter contre moi?
Oh non, monsieur, pas contre vous.
Alors, pourquoi? Parlez. Qu'est-ce que ça signifie?
Le frère de ma femme meurt de faim sur la lande. Mais nous ne pouvons quand même pas le laisser mourir à notre porte. Alors cette lumière est un signal pour lui dire que les aliments sont prêts. Et sa lumière là-bas, c'est pour nous indiquer l'endroit où nous devons les porter.
Alors, votre beau-frère, c'est...
Oui, monsieur. Le bagnard évadé, Selden. Oh, un bon petit. Il a été entraîné. Quand il s'est évadé, il n'a pensé qu'à venir ici. Et nous l'avons caché dans les grottes.
C'est bon, je vous crois. Rentrez dans votre chambre. Nous parlerons plus longuement de tout cela demain. Watson, cette canaille se cache à moins de 2 miles. Nous allons le capturer et le faire parler. Il doit en savoir long sur le chien des Baskerville. Allez, venez! Vous entendez?
Oui. Stapleton m'a expliqué, c'est un butor.
C'est impossible, Watson! C'est un chien. Watson, je suis plus un enfant, j'aime mieux savoir la vérité. C'est un chien, n'est-ce pas?
Je voudrais bien le savoir.
Mon Dieu, se peut-il qu'il y ait quelque chose de vrai dans toutes ces histoires? Est-ce que je suis vraiment en danger à mon tour? À Londres, je haussais les épaules quand on me parlait de ce chien, mais... Mais ici...
Voulez-vous qu'on retourne au manoir?
Jamais. On dirait que ce cri vient du bourbier de Grimpen. Oh, c'est le vent qui nous joue des tours. Watson. Watson, arrêtez-vous, je suis sûr qu'on vient de marcher devant nous. Il y a quelque chose sur le chemin.
Doucement. Ne tirez pas, surtout. La lune se lève. Allons, avançons. Dans un quart d'heure, le clair de lune nous trahira. Cette fois, nous n'avons pas rêvé. Il y a bien un chien sur la lande. Si seulement Holmes était là.
Vous avez remarqué, tout à l'heure, le hurlement venait de notre droite. Et maintenant, il est devant nous, comme si la bête courait vers les grottes.
Diable! Nous avons oublié Selden. Vite, vite!
C'est ici! Il y a un sentier!
À gauche, je vois la grotte!
Le chien! Tirez, Watson!
Il a pris la fuite. J'ai juste aperçu une ombre qui disparaissait, une ombre gigantesque, je n'oublierai jamais cela. Venez, entrons dans la grotte.
Avez-vous les allumettes, Watson?
Oui, c'est vrai. Selden.
Selden! Oh!
Il est ici. Une autre allumette, Watson.
Oh, la tête broyée. J'ai les doigts pleins de sang.
Le chien existe. Vous comprenez, Watson, le chien existe. Oh, je suis un homme mort.
Taisez-vous donc. Laissez-moi réfléchir. Voyons où ai-je fourré ces allumettes. Je voudrais examiner le corps. Ces vêtements, avez-vous remarqué?
Ils m'appartiennent. Barrymore lui a donné un de mes vieux complets.
Un de vos complets? Cela doit signifier quelque chose. Si seulement Holmes était là...
Il est là!
Hein? Quoi? Qui va là?
Doucement, on n'allait pas me tirer dessus. C'est moi, Holmes, en chair et en os.
Ah, mais vous étiez à Londres.
Exact, j'étais à Londres et maintenant je suis ici, pour vous sauver, Sir Henry.
Et vous avez résolu le problème?
Il y a déjà pas mal de temps, mon cher Watson. La solution crevait les yeux.
Mais c'est vous qui marchiez tout à l'heure sur le chemin?
Oui.
Pourquoi ne vous êtes-vous pas fait reconnaître?
Parce que j'aurais voulu garder l'incognito plus longtemps. Jusqu'à la fin. Nous avons un adversaire terrible. Watson, et qui ne reculera devant rien. Tant pis. Je lutterai maintenant à visage découvert.
Devons-nous ramener le corps de Selden?
Inutile. Nous avons intérêt à ne pas nous attarder sur la lande.
C'est bien un chien, n'est-ce pas?
Oui. C'est un chien. Mais son maître est le diable. Rentrons vite.
Mortimer ? Que se passe-t-il ?
Oui, je me suis arrêté une minute en passant. Mais c'est Monsieur Holmes ? Quelle surprise !
Et encore, vous ne savez pas tout. Le bagnard. Eh bien, c'était le beau-frère de Barrymore. Il vient d'être tué. Par le chien. Par le chien, vous entendez, Mortimer ?
Mais oui, j'entends bien, mais j'ai peur de comprendre.
Monsieur Holmes va tout nous expliquer. Je pense qu'il doit rester quelques provisions à l'office. Watson, soyez gentil, mettez la table.
Entendu.
Il vaut mieux ne pas déranger Barrymore, surtout pour lui apprendre que Seldon est mort.
Une minute, Sir Henry. J'ai une commission pour vous. Ce soir, j'ai rencontré Stapleton. Il était un peu fatigué, il voudrait bien vous voir. Il m'a dit qu'il voulait s'excuser et il m'a raconté une histoire assez embrouillée. Enfin bref, il vous attend chez lui, demain soir.
Bon, j'irai, naturellement. Excusez cette collation improvisée, Monsieur Holmes.
Je vous en prie.
La théière est sur la desserte, Watson.
Bien. Sir Henry possède une bien remarquable galerie de tableaux. Voici un Keller, si je ne me trompe. Et ce vieux gros monsieur, en perruque, c'est un Reynolds. J'en jurerai.
Ce sont des portraits de famille.
Bien, table. Vous regardez mes ancêtres, Monsieur Holmes.
Oui. Et qu'est-ce que ce cavalier en velours noir et dentelle ?
Mais parbleu, c'est le fameux baron Hugo, celui qui est la cause de tous nos malheurs.
Watson, voulez-vous approcher un flambeau ? S'il vous plaît.
Voilà.
Tenez, donnez-moi une chaise, maintenant. Allez, regardez. Là, avec mon mouchoir, je cache le chapeau et la longue barbe.
Oh ! Incroyable ! On dirait Stapleton.
Exactement. Stapleton est un Baskerville. De telles ressemblances ne sont pas rares.
Mais alors ?
Alors ? Passons à table, car c'est une longue histoire. Pardon, essayez-vous. Je vous disais donc... Pardon. Je vous disais donc que Stapleton est un Baskerville. Mes recherches à Londres prouvent qu'il est le fils de ce Roger mort en Amérique. Il changea de nom et vint en Angleterre où il ouvrit une école sous le nom de Vandeleur. Merci. Puis, ruiné, il se fit appeler Stapleton et il se mit alors en tête de capter l'héritage des Baskerville.
Ah, je comprends.
Connaissant la légende du chien, il se procura un énorme danois à Londres et lui prépara un chenil au centre du Bourbier, dans un endroit inaccessible à tout autre. Puis un soir, il donna rendez-vous à Sir Henry près de la carrière, sous un prétexte que j'ignore, et lâcha son chien. Vous connaissez la suite.
Et Seldon ?
Pure coïncidence.
Mais moi, comment compte-t-il se débarrasser de moi ?
N'y a-t-il pas Berville pour vous attirer chez lui ?
Peut-être, mais cependant...
Ne vous a-t-il pas invité demain soir ?
Vous croyez que...
Sans aucun doute. Il a l'intention de vous faire tuer demain par son chien. C'est même pour cela qu'il vous a volé une paire de chaussures à l'hôtel. Oui. Car il attendait l'occasion depuis le matin. Son chien connaît votre odeur maintenant. Et la preuve, c'est qu'il a tué Seldon parce que Seldon portait vos vêtements.
Mais c'est terrible. Mais la lettre ? Qui a écrit la lettre à l'hôtel ?
Beryl, oui, qui avait accompagné son frère à Londres. Beryl, qui voulait mettre en garde Sir Henry. Beryl, qui connaît tous les secrets de son frère.
Mais c'est impossible ! Je connais Beryl et je vous affirme !
C'est pourtant la vérité.
Je lui parlerai, je l'interrogerai, tout ça me semble tellement incroyable.
Mais il n'ira pas là-bas, Sir Henry, ce serait une folie !
Si ! Il faut qu'il aille au rendez-vous. Il n'y a pas d'autre façon de confondre Stapleton.
Mais le chien !
Nous veillerons autour de la maison. Sir Henry n'aura rien à craindre. Voulez-vous me passer la moutarde, Watson ?
Merci.
Merci. Ce bœuf est une merveille. Je crois vraiment que j'étais affamé.
Ici, nous serons parfaitement installés. Vous qui connaissez la maison, Mortimer, pouvez-vous me dire comment les pièces sont disposées ? Ces fenêtres grillagées sur le jardin ?
Ce sont celles de la cuisine.
Ah bon ? Et les deux autres sur la façade ?
La salle à manger.
Au premier, combien de pièces ?
4 chambres.
S'il n'y avait pas ce brouillard, ce serait parfait. Croyez-vous qu'il passe épaissir, Mortimer ?
Je le crains. À cette saison, quand il tombe sur la lande, il se transforme tout de suite en purée de pois. Et c'est l'affaire de quelques minutes.
C'est terrible, Mortimer, ce que vous dites là. Nous risquons de ne pas voir sortir Sir Henry.
Vous plaisantez, Watson. Nous sommes à 25 mètres de la porte.
Ah, je ne voudrais pas vous inquiéter inutilement, Monsieur Holmes, mais il se peut que la maison devienne complètement invisible avant un quart d'heure. Et le moment n'est pas loin où nous ne verrons plus nos mains.
Quelle heure est-il, Watson?
10h moins 5. Il a promis de sortir à 10h au plus tard.
Vérifiez vos revolvers. Le fait est que ce damné brouillard commence à devenir gênant.
Oui, à peine si l'on aperçoit les fenêtres éclairées.
Qu'est-ce qu'il peut faire? On ne peut pourtant pas le prévenir.
Pauvre Baskerville. Je n'ai rien voulu dire devant lui, mais... Beryl. Beryl n'est pas la sœur de Stapleton. C'est sa femme.
Comment?
Attention. Il me semble que la porte s'est ouverte. Ah, vous avez raison, Mortimer, on ne voit plus la maison. Ah non. Non, nous nous sommes trompés.
Sa femme?
Certainement. J'ai trouvé l'acte de mariage. Beryl et sa complice. Une complice terrorisée, j'imagine.
Je comprends maintenant pourquoi Stapleton était tellement agité l'autre jour, quand il a vu que Sir Henry avait disparu avec Beryl. Il était jaloux.
10 heures, nous devrions nous approcher.
Attendons encore une ou deux minutes. Oui, il était jaloux, et pourtant c'est sur son ordre que Beryl a guiché Sir Henry.
Nous ne verrons pas le chien, monsieur Holmes.
Mais si. Parce que Stapleton doit l'enduire d'une pommade phosphorescente avant de le lâcher. Ce qui donne à la bête une apparence formidable et surnaturelle. Ne perdons pas de temps à viser. Dès qu'il passera devant vous, feu!
Voilà, Sir Henry.
Bonne nuit, Stapleton!
Il ne nous voit pas, ça vaut mieux. Suivons-le. Sir Henry, ne courez pas!
Manqué! Vite!
Par ici! Pas de mal, Sir Henry.
Un coup de dent à l'épaule. Ah, l'horrible bête!
Et je l'ai eu en pleine tête. Regardez ces crocs. Jamais vu un animal d'une pareille taille.
À la maison. Stapleton va fuir. La porte n'est pas fermée. Stapleton! Rendez-vous! Personne. Stapleton!
Ah!
Qu'est-ce que c'est?
Beryl. Il l'a tué. N'entrez pas, Sir Henry. Oui. Elle est morte.
Ah, Beryl. Beryl. Restez avec lui, Mortimer. Vous venez, Watson. Par le jardin. Je l'entends. Arrêtez! Stapleton! Il a vu qu'il était pris. Il s'est fait justice.
Une belle canaille.
C'était un monstre, oui. Mais il était bien intelligent. Un peu plus. Il faudrait que vous racontiez cette histoire, Watson. Elle en vaut la peine. Le chien des Baskerville.
Le chien des Baskerville, adaptation radiophonique de Thomas Narcejac d'après l'œuvre de Conan Doyle, était interprété par Jean Topard dans le rôle de Sir Henry, avec André Var, Lord Baskerville, Louis Arbessier, Stapleton, Lucien Plessis, Mortimer, Albert Gercourt, Barrymore, Jean Bolo, Watson, Florian Prévost, Beryl, et Henri Guizol dans le rôle de Sherlock Holmes. Prise de son Noël Barbet, opérateur Charles Marié. Petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure. Les livres lus par Germaine Beaumont.
Puisque la grande figure de Sir Arthur Conan Doyle domine aujourd'hui notre émission, il me sera pardonné, j'espère, de ne pas parler des plus récents romans policiers, mais de me reporter en arrière. Je commencerai par mentionner que dans la préface d'un ouvrage anglais non traduit, qui se nomme « Les exploits de Sherlock Holmes » et dont les auteurs sont Adrian Doyle, le plus jeune fils de Sir Arthur, et le célèbre auteur de romans policiers modernes John Dixon Carr, il est dit ceci. Il est à peu près certain que pas un des lecteurs du Strand Magazine en 1887 n'aurait pu imaginer que Sherlock Holmes et le docteur Watson, qui faisaient alors leur début dans ce magazine anglais, allaient bientôt devenir les deux personnages fictifs les plus illustres du monde entier. Il est certain également que Sir Arthur Conan Doyle lui-même ne se doutait pas que lorsqu'il eut décidé de supprimer Sherlock Holmes bien des années plus tard en le faisant pousser du haut d'une falaise en Suisse, l'opinion publique élèverait une telle clameur de protestation qu'il lui faudrait ressusciter Sherlock Holmes et le ramener bien vivant dans sa maison légendaire de Baker Street. Je dois dire que lorsque j'habitais moi-même à Londres, il y a tant d'années que je préfère ne pas les compter, la réalité de Sherlock Holmes était telle encore que je ne parcourais jamais Baker Street sans un frisson de révérence et de vague appréhension, comme si j'allais voir surgir, surtout au crépuscule, et les crépuscules de Londres sont brumeux, le plus étonnant détective que la fiction policière eût créé avant Maigret. J'ai toujours pensé, et ne suis pas la seule, que la création d'un type littéraire est une preuve de génie. Arracher un personnage au néant et le doter d'une vie humaine si persuasive que les humains eux-mêmes finissent par s'y tromper, si ce n'est pas là le génie même de la création, comment, en d'autres termes, le définir ? Or, il y a dans le roman policier deux personnages imaginaires qui, à ma connaissance, sont devenus humains. Ce sont Sherlock Holmes et Maigret. Certes, leur apparence physique et leur vie privée sont essentiellement différentes, bien que ce soit l'un et l'autre de grands fumeurs de pipe. Mais s'il y a dans leur procédé d'investigation des divergences, ce ne sont pas des divergences fondamentales. C'est, nous le savons, Sherlock Holmes qui a introduit les méthodes d'investigation et d'observation dont s'emparèrent les policiers du monde entier et qui sont encore universellement appliquées. Mais le regard pénétrant et sagace de Maigret ressemble fort à la loupe de Sherlock Holmes. Très peu de choses lui échappent. Ce que Maigret apporte lui de nouveau, c'est l'intérêt humain dont s'écarte la précision de Holmes. Car Maigret ne cherche pas toujours et pas uniquement les indices, comme le faisait son illustre devancier, dans la laine d'un tapis, les poussières du sol ou la disposition des taches sur un mur, mais il le cherche aussi dans les regards, les silences, les attitudes et, disons-le, dans les impondérables. Autrement dit, le plus cartésien des deux n'est pas le détective français, mais le détective anglais. Et pour conclure, je conseillerais à Georges Simenon de ne pas chercher à supprimer le commissaire Maigret, parce que l'opinion publique française, réagissant comme l'opinion publique anglaise, aurait au fait de l'arracher à la tombe pour le ramener à son domicile, boulevard Richard Lenoir.
Les spectacles vus par Roger Régent.
Les arts du spectacle ont fait une large place, dans leurs pièces et dans leurs films, à Sherlock Holmes. Pour le théâtre, il s'est emparé de Sherlock Holmes dès 1894. C'est l'écrivain anglais Charles Rogers qui, cette année-là, adapta pour la scène un Sherlock Holmes et monta sa pièce à Glasgow. En 1897, Conan Doyle lui-même écrivit une pièce dont Sherlock Holmes était le héros, mais il ne croyait guère au succès de son personnage sur la scène et il donna son manuscrit à un imprésario américain, lequel le remit à William Gillette, grand acteur-auteur célèbre dans tous les États-Unis. Gillette, qui avait reçu carte blanche de Conan Doyle pour adapter sa pièce, la réécrivit complètement en 4 semaines. Enfin, la pièce fut créée à New York et connut un triomphe. William Gillette promena la pièce en tournée dans toute l'Amérique et en 1901 vint la créer à Londres au Lyceum Théâtre où elle eut 216 représentations. Pour ses représentations au Lyceum, Gillette engagea pour jouer le rôle d'un groom, un gamin anglais de 12 ans. Il s'appelait Charlie Chaplin. Par la suite, d'innombrables adaptations des récits de Sherlock Holmes furent faites au théâtre. Quant aux incursions de Sherlock Holmes au cinéma, elles sont innombrables. La première remonte, semble-t-il, à 1906. C'était en Angleterre. Entre 1908 et 1910, une firme danoise tourna 13 petits films et qui obtinrent un grand succès. Et des compagnies américaines, allemandes et italiennes firent ensuite des Sherlock Holmes. En 1912, tous les droits furent vendus à la compagnie française Éclair, qui réalisa 9 films. Et en 1914, fut tournée une étude en rouge, qui est le premier de tous les Sherlock Holmes. En 1916, en Angleterre, La Vallée de la Peur, puis la pièce de William Gillette, qui joua lui-même le rôle qu'il avait créé. En 1921, la Stoll Film, société anglaise, présenta les aventures de Sherlock Holmes avec Hale Norwood dans le rôle d'Holmes, puis tourna ensuite 47 films de la même veine. Le dernier film muet où apparut Sherlock Holmes, sous les traits de John Barrymore, ce fut Moriarty. Avec le cinéma parlant, le personnage connut un regain de popularité. On tourna de nombreux films entre 1929 et 1939, mais l'acteur qui fut le Sherlock Holmes le plus marquant, ce fut Basil Rathbone, qui joua le chien des Baskerville à la veille de la guerre. On a pu calculer que depuis 60 ans, il a été écrit 16 pièces, et que depuis 48 ans, on a tourné 115 films avec Sherlock Holmes. Quant à la radio et à la télévision, elles ont déjà consommé 1000 adaptations. Alors disons, pour clore ce bilan impressionnant, que l'adaptation de Thomas Narcejac que vous venez d'entendre est la 1001e.
Radiodiffusion Télévision Française vous a présenté Faits divers, une production de Pierre Véry et Maurice Renaud. Vous avez pu entendre ce soir, en hommage à Sir Arthur Conan Doyle, Le chien des Baskerville, une adaptation radiophonique de Thomas Narcejac, d'après l'œuvre de Conan Doyle. Et Le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure, avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Assistant Jean Garetto, réalisation Pierre Billard.
Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 26 mai 1959. Vous pourrez la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.